Je vais parler aujourd'hui, comme vous savez, de Nerval, du poème El Desdichado, qui se trouve dans les Chimères, qui se trouve, elle, à la fin des Filles du Feu de 1854. Voici le poème. El Desdichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. « Waouh », comme on dit en anglais. Je vais commencer tout bêtement par les premiers mots. « Je suis », c'est un poème en partie, évidemment, sur l'être du « moi ». Et notons d'abord certaines choses qui sont là, avant même que les critiques arrivent avec des renseignements. C'est un poème où on a besoin de renseignements vus de l'extérieur, mais déjà dans le premier vers, on voit que quelqu'un, en parlant, prend soin d'utiliser trois fois l'article définitif, en quelque sorte pour pouvoir se définir, sans dire, au lieu de dire « je suis ténébreux », dire « je suis le ténébreux » commence déjà à définir la personne, mais que, en même temps, et au contraire, tous les adjectifs sont en quelque sorte privatifs. Le ténébreux est privé de lumière, le veuf est privé de sa femme, l'inconsolé est privé de consolation. On a déjà tout ça dans le premier vers. Et une première petite renseignement qui pourrait venir à l'esprit, c'est le fait que Nerval s'appelait en fait Gérard Labruni, et qu'en écrivant « ténébreux », il pensait peut-être au mot « brun » qui se trouve dans son nom. Intéressant d'ailleurs le nom qu'il a pris de Nerval. Il l'a pris du clos de Nerval qu'il a hérité de ses grands-parents. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais Nerval est si proche de Vernal et aussi de Valois, la région de Nerval dont il se trouvait en quelque sorte déraciné. C'est le Nervalois. Et on remarque aussi, sans aide, qu'il s'agit d'une descente progressive dans la mort, à partir du mot « veuf » dans le premier vers jusqu'à l'Achéron à la fin, en passant par d'autres mots. Et une descente dans la mort du « moi » à la recherche d'une renaissance du « moi ». J'y reviendrai. Une renaissance qui est un peu annoncé pour le passé et non pas pour le présent par deux fois vainqueur. Vers la fin, on sait que Nerval, du moins d'après la nouvelle Octavie qui est dans Les Filles du Feu avec El Desdichado, on sait que d'après cette nouvelle, il était deux fois tenté de se suicider. Quand il était sur le posilipe, deux fois je me suis élancé, je ne sais quel pouvoir me rejeta vivement sur la terre que j'embrassais. Je dis d'après la nouvelle Octavie parce que, en fait, comme on le sait, la vie réelle de Nerval et la vie de ses hallucinations et la vie qu'il met dans ses nouvelles se sont amalgamés à tel point qu'il est très difficile de faire la part du réel et du rêve. C'est une descente dans le moi, dans la mort du moi, où ne pas se tuer devient revenir de la mort et ensuite renaître. La trajectoire du poème, autrement dit, est de ce point de vue-là traditionnelle, mythique, mais tout de suite on sait qu'on n'est pas dans un poème traditionnel par le premier vers dont tout le monde dit que c'est en quelque sorte l'homme moderne qui parle en 53 puis en 54. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, on pourrait l'utiliser comme une sorte d'épigraphe de la condition moderne de l'homme ou la condition de l'homme moderne. On remarque aussi que le « je suis » du début devient « suis-je ». On remarque aussi que « je suis » annonce les deux quatrains et que « suis-je » annonce les deux tercets. Autrement dit, on s'aperçoit déjà du contrôle qu'il y a dans le poème. On sent déjà que la personne qui parle, qui est peut-être même un peu déséquilibrée, qui a des hallucinations, qui ne sait pas qui elle est, qui parle du moi éparpillé, est en train néanmoins d'écrire un poème d'une précision très exacte. On peut noter aussi le titre, qui vient de Scott, comme vous le savez sans doute, Ivanhoe, que les Français ont tendance à prononcer Ivanhoe, de 1819, Ivanhoe déguisé vint une série de chevaliers normands, il est saxon, dans un tournoi. Comme on l'a remarqué, ce titre et le rapport avec Scott est intéressant. Scott dit que sur l'écu d'Ivanhoe, il y avait le mot espagnol desdichado, c'est-à-dire déshérité. En fait, le mot ne signifie pas déshérité, comme on le sait si on consulte un dictionnaire espagnol. C'est Nerval qui ajoute « elle », curieusement. Le mot « elle » qui est « le », évidemment, en espagnol. « El desdichado » comme « le ténébreux », etc. « Desdichado » signifie en fait « infortuné »,« malheureux ». Et sur l'écu d'Ivanhoe, dans le texte de Scott, il y a représenté a young oak tree pulled up by the roots, un jeune chêne déraciné. Déraciné ne figure pas toujours dans ce que dit du poème les critiques français. Ne figure pas, par exemple, dans la note de la Pléiade, l'éditeur ayant utilisé une traduction qui semble avoir omis le mot. Il s'agit simplement d'un jeune chêne. Mais un jeune chêne déraciné, si Nerval a lu le texte anglais, a dû l'attirer, lui qui était déraciné du Valois, et lui qui est, dans le poème même, déraciné de son moi, de son être. Mais ce qui est encore plus important pour le poème, et évident, c'est que le titre appartient à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre est un personnage fictif. En écrivant sur le moi, Nerval prend un mot espagnol en plus, qu'il trouve dans un roman écrit en anglais. Je ne dis pas un roman en anglais parce que Scott était écossais, que dirait-il. Et on remarque tout de suite une sorte de sophistication, dans le bon sens du mot, sophistication moderne, sinon moderniste. Nerval entre dans son poème comme un personnage fictif tiré d'un roman étranger où l'on trouve un mot encore plus étranger. On a bien vu aussi que le premier vers peut contenir une sorte d'autodérision. Il est très difficile, ou du moins, en tant qu'anglais, je trouve très difficile parfois, en lisant la poésie française, de faire la part entre l'emphase et, disons, le pouvoir de l'énonciation. ce que je veux dire, c'est qu'il est très facile de lire les premiers vers. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Mais ensuite, je me dis que, après tout, cela fait partie de l'art oratoire français et qu'il est tout à fait possible à un personnage de Corneille, je reste dans Corneille parce que nous y étions tout à l'heure, de dire « Je suis maître de moi, comme de l'univers, je le suis, je veux l'être au siècle, aux mémoires, conserver à jamais ma dernière victoire. » Et je suppose que Corneille ne se fiche pas d'Auguste, il est même certain qu'il ne se moque pas de lui. Mais nous savons néanmoins que ce premier vers de Nerval a une source curieuse, nous le savons, ce n'est pas moi qui vous le dis, une source pour le moins curieuse dans un autre texte de Nerval et dans la Défense et illustration de la langue française de Dubellay. Dans un texte qui s'appelle « Le roman tragique », publié en 1844, donc bien avant El Desiderato, il est question d'un acteur, l'illustre Brisacier, qui, déchu, se remémore sa gloire d'autrefois sur la scène et les rôles qu'il jouait. Et parmi ces rôles, il y a celui du prince, celui du beau ténébreux, on voit tout de suite le rapport avec notre poème, et il y a aussi celui du déshérité. Alors, si Nerval pensait que Desdichiardo signifiait déshérité, c'est encore un autre exemple de lien entre les deux textes. Le beau ténébreux, c'est plus précisément, très précisément, Amadis de Gaulle, dans le roman de Montalbo de 1508. Je ne sais pas pourquoi je vous donne la date, c'est une sorte d'habitude. Un personnage de roman et de roman étranger, comme Ivanhoé, et il est plus ou moins certain, plus ou moins évident d'ailleurs, que Nerval, en écrivant El Desiderato, a repris les expressions qu'il avait déjà utilisées en 1944 pour parler d'un histrion. Non seulement cela, mais il cite le passage du roman comique dans la préface des Filles du Feu, dans la lettre à Alexandre Dumas, comme pour dire au lecteur, remarquez bien que le premier vers d'Esdichardo vient de ce texte. On peut se demander donc si le personnage d'Esdichardo est au moins en partie un histrion. Le roman tragique citait déjà Dubellay. Et Dubellay, dans La Défense, dit à un moment qu'il en a marre de ces titres un peu ronflants que certains poètes de l'époque se donnaient. Et parmi ces titres, il y a « Le banni de liesse ». Et le banni de liesse n'est pas dans notre poème, mais est dans le passage du roman tragique, où Brisacier pense à ses rôles. Et ce que je remarque surtout, c'est que dans le texte de Dubellay, il ne s'agit pas d'acteur, il s'agit de poète. Autrement dit, dans El Desiderato, il est possible que celui qui parle joue une succession de rôles et joue aussi le rôle d'une succession de poètes qui s'affublent de noms ridicules, ou du moins ridiculisés, dans le texte de Dubellay. Mais est-ce, plutôt que de voir dans tout le poème une sorte d'autodérision, vaut-il mieux dire que l'autodérision s'ajoute au sérieux ? Nerval dit, en souffrant, me semble-t-il, « Je suis le ténébreux » et voit en même temps le côté comique de cette conscience de soi. Il voit en même temps le rôle qu'il joue quand il s'en va à la recherche de son être, sachant bien que son être est multiple, qu'il joue inévitablement beaucoup de rôles. Ce qui ajoute à son désarroi, ce n'est pas un moment anglais, mais c'est le genre d'effet que je reconnais à partir de la littérature anglaise, où le comique s'ajoute au, disons, tragique, et le comique rend le tragique encore plus tragique, n'enlève rien, au contraire, en ajoute. Et c'est cette conscience double dans le poème qui est, dans le contexte de 1853-4, elle-même moderne et moderniste. Nous avons affaire, évidemment, à la conscience moderne du moi éclaté. Le poème de Villon, dont je parlais il y a quelques semaines, commence « Je connais ». Le poème de Nerval commence « Je suis ». Villon dit « Je connais tout fort que moi-même ». Nerval dit en somme « Je ne connais rien ». Et quelle différence entre le poème de Villon et le poème de Nerval, qui a une nouvelle expérience du moi, me semble-t-il, et qui a en même temps une nouvelle technique. Il a une nouvelle façon de concevoir un poème. Le poème est un chaos apparent d'allusions à des choses tout à fait hétérogènes. Et c'est une vraie aventure. Le poète s'aventure dans son poème. Le poème est un éclatement du moi et du monde, j'y reviendrai, dans le but de tout contrôler. Et il me semble que le grand poète est celui qui a une nouvelle manière d'être. Il trouve cette manière en lui-même. Il est né poète dans ce sens-là. Il a une nouvelle manière d'être et en même temps une nouvelle technique à la hauteur de ce qu'il y a de nouveau en lui. Et c'est précisément et évidemment le cas de Nerval. Cette expérience est en partie, comme vous le savez, la folie. Il est passé par deux crises très graves en 1941 et en 1953. Et la folie lui révèle des choses. Je ne sais pas ce qu'il faut en dire. Il ne faut sûrement pas dire qu'il faut chercher la folie pour devenir un grand poète. Mais l'année dernière, j'ai parlé de Christopher Smart, le poète anglais du XVIIIe siècle, qui était pour le moins déséquilibré, mais dont le déséquilibre lui a donné le poème Jubilate Agno, qui contient My Cat Jeffrey. C'est en partie à cause de son déséquilibre qu'il est devenu un grand poète. Et la même chose, me semble-t-il, est vraie de Nerval. Sa folie lui révèle cet éclatement du moi, cette hallucination qu'habite le moi, qu'il n'aurait peut-être pas su s'il était resté simplement sain. Et cette folie lui révèle la multiplicité du moi, une multiplicité que nous voyons d'ailleurs dans le poème, encore une fois, sans l'apport des renseignements vus de l'extérieur. On voit, sans rien connaître de l'extérieur, qu'il joue le rôle d'un prince, par exemple, qu'il joue le rôle d'un ménestrel, le luth, au troisième vers. Si on connaît Ivanhoe, on sait qu'il joue aussi le rôle d'un chevalier. Il joue, c'est dans le poème, le rôle d'amour, d'Apollon, Phébus, de Lusignan, de Biron, d'Orphée. Tout cela est dans le poème. Et il me semble important d'ailleurs de pouvoir lire le poème sans les informations fournies par la critique, l'érudition, qui sont néanmoins importantes. Et comme on l'a bien vu, Nerval, en jouant ses rôles, écrit sa propre histoire, et il écrit toujours sa propre histoire dans tous ses poèmes, dans toutes ses nouvelles. Il écrit l'histoire de Nerval, il ne devient pas autre par ses personnages, en un sens, il est tout le contraire de Shakespeare. Il s'agit de chimères, et On sait que Nerval répond ironiquement à Dumas en choisissant le titre Chimère pour ses 12 sonnets. Dumas avait dit dans un article que Nerval, qui était un peu fou, nous emmène dans le pays des chimères et des hallucinations. Nerval prend donc ironiquement le mot même de l'accusation. Mais pensait-il aussi à Hugo ? Après tout, dans le poème que nous avons regardé la semaine dernière à Albert Dürer, il est question d'une chimère. Il est question aussi de Dürer, et Dürer revient dans le sonnet de Nerval, dans la gravure Mélancolia. Le soleil noir de la mélancolie est une allusion à la gravure de Dürer. Probablement pas. Je ne pense pas que Nerval ait eu Hugo à l'esprit, mais il est intéressant néanmoins de confronter les deux poèmes, parce qu'on voit que la chimère de Hugo se trouve dans un antre et que la grotte est une des images obsessionnelles même de Nerval. Il est attiré par la grotte où nage la sirène. La sirène étant une chimère au sens large du mot, une combinaison de femmes et de poissons. Et on voit ensuite, ayant vu la similitude, la différence, pour Hugo, la chimère est. Il n'y a pas de chimère dans le sens mythologique, mais la chimère est, c'est le monstrueux, le grotesque, qui nous fixe et qu'il faut affronter. Alors que pour Nerval, la chimère signifie. La chimère signifie, elle signifie, paraît-il, les religions païennes à faire revivre, ou bien le syncrétisme, le mélange chimérique, donc, de toutes les religions, y compris le christianisme. Et la chimère change entre les deux écrivains, comme le rêve et le réel changent entre Hugo et Nerval. Pensons à la forêt de Dürer. Hugo écrit « Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux », ce qui est une pensée relativement traditionnelle, c'est pas critiquer Hugo, relativement traditionnelle, où le réel et le rêve se mêlent dans notre expérience du monde, alors que dans l'expression archi-célèbre d'Aurélia, Nerval parle de l'épanchement du songe dans la vie réelle, l'épanchement du songe dans la vie réelle, qui est tout à fait différent et qui annonce déjà évidemment le symbolisme et beaucoup de réflexions modernes. Le passage de Hugo à Nerval et le passage d'un grand poète à un grand poète, mais aussi du romantique au moderne, et je dirais même à la modernité, au modernisme. Dans ce poème où tout est éparpillé, où le lecteur est ébloui, mais aussi tout à fait perplexe au début, parce qu'il y a trop de choses et on n'arrive pas à relier les choses les unes aux autres, on remarque aussi une précision, un contrôle du chaos qui est tout à fait remarquable. D'abord, c'est un sonnet, et il ne faut pas négliger ce petit fait. C'est même un sonnet d'amour, toi qui m'as consolé, et c'est en quelque sorte, ou en partie, la parodie d'un sonnet d'amour. C'est un poème anti-pétrarchiste. On pourrait très bien l'inclure dans une anthologie de poésie française, espagnole, anglaise, anti-pétrarchiste, qui commence « Je suis le ténébreux ». Mais pourquoi un sonnet ? D'abord, évidemment, parce que c'est une forme très stricte qui permet de contrôler un moi et un monde éclaté. C'est une forme très brève afin de créer un lieu pour le moi et le monde. Et Un moment curieux de la préface, la lettre à Dumas, est celui où il parle de ces sonnets écrits dans cet état de rêverie supernaturaliste, comme diraient les Allemands, où la plupart du temps, si je les ai bien lus, les critiques lisent l'expression comme si Nerval parlait des poèmes composés dans un état de rêverie. Il parle de sonnets écrits dans un état de rêverie, ce qui est beaucoup plus précis, parce qu'il met l'accent sur le fait que, en un sens, il ne contrôlait pas ce qu'il faisait, enfin, il le prétend, et je pense qu'on peut le croire, il ne contrôlait pas, il écrivait dans une sorte de révélation, de rêverie. Ailleurs, il dit qu'il écrivait au plus fort de ses hallucinations, mais ce qu'il écrivait, ce n'était pas simplement des poèmes, c'était des sonnets. Alors Dieu sait à quel point il est difficile d'écrire un sonnet, à cause justement de la contrainte de la forme. Et étant donné aussi la surabondance, on dirait presque la pléthore de matière qui se trouve dans El Desdichado, comme d'ailleurs dans les autres sonnets d'Ishimer, on pourrait peut-être penser que c'est une tentative pour écrire les sonnets les plus longs qui aient jamais existé, si vous voyez ce que je veux dire. Ezra Pound a dit dans une lettre à T.S. Eliot que The Wasteland, qui ne contient en fait que 433 vers, que The Wasteland est le plus long poème jamais écrit en langue anglaise. Et il voulait dire évidemment que le poème est tellement rempli de choses, fourmi de tant d'allusions, de références, de citations, de continents, de moments d'histoire, etc., qu'on a l'impression d'écrire, de lire un poème extrêmement long. J'ai la même impression en lisant Nerval. Et le fait de rapprocher Nerval et T.S. Eliot me semble important. Je ne l'ai pas fait comme ça. Je reviendrai à ce rapprochement à faire. Et Nerval écrit des sonnets extrêmement longs, en 14 vers, par leur multiplicité, et en les organisant d'une façon tout à fait exemplaire. N'importe quel poète peut apprendre chez Nerval sans tomber dans l'imitation de Nerval. Par exemple, c'est évident, mais enfin, je le dis, le passage dans le poème du Moyen-Âge à l'Antiquité. On voyage dans le poème. On commence avec Ivanhoé, le prince d'Aquitaine, Lusignan, etc. Et on termine avec la sirène, Achéron, Orphée. On plonge dans le temps, comme on plonge vers la mort. Il y a aussi le passage du ciel aux enfers. Étoiles, constellées, soleil. Ensuite, tombeau, grotte. Et ensuite, Achéron, un des fleuves des enfers. Il y a un mouvement très, très bien structuré. Si c'est ça la folie, soyons fous. Et dans un tout petit poème, 14 vers, évidemment, par définition, on trouve 5 fois le mot « et ». Et ce n'est pas, me semble-t-il, par hasard. Ce mot « et » relie tout ce qu'il y a dans le poème pour que l'on voit les liaisons, mais pour que l'on voit aussi qu'il y a entre les choses qui sont mises ensemble une hétérogénéité. Dire 1 et 2, X et Y, c'est la façon la moins solide, en quelque sorte, de relier deux choses. Mais contrairement à cela, deux choses sont constamment rapprochées de façon plus rigoureuse. La treille ou le pampre à la rose s'allie. Il y a sans doute beaucoup de sens occulte, etc., dans ce vers, mais on remarque surtout que le pampre s'allie à la rose. Il y a la reine et la sirène, la sainte et la fée. Deux choses sont constamment en train de se rapprocher. Et le début du poème revient dans la fin. Le veuf du premier vers devient Orphée, qui est veuf, évidemment. Il a perdu Eurydice. Les trois adjectifs du premier vers pourraient même décrire Orphée. Il est ténébreux parce qu'il est descendu dans les ténèbres de l'enfer, il est veuf, il est inconsolé, inconsolé très précisément parce qu'il pensait être consolé. Il pensait pouvoir ramener Eurydice à la vie, mais il a échoué, donc il est inconsolé. Et il y a évidemment la musique du poème qui sert non seulement à en faire une belle musique, mais à contrôler, à rapprocher tous les détails, tous les petits éléments du poème. Les sons répétés contrôlent notre façon de lire et contrôlent la matière de la chose, pour ainsi dire. Je suis le ténébreux, le veuf. Le ténébreux, le veuf. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir, etc. J'exagère un peu, mais on voit que ces mots qui ne sont pas à la rime s'ajoutent en quelque sorte à la rime. Et certains mots semblent naître d'autres mots. Le mot « reine » semble être né déjà du mot « sirène ». Le mot « Orphée » semble donner naissance au mot « fée ». C'est tout à fait poétique, entre parenthèses. En écrivant, les mots veulent, en quelque sorte, je le dis d'une façon un peu mystique, ce n'est pas mystique du tout, les mots semblent vouloir s'engendrer les uns des autres. Ici, on écrit « Orphée », le mot « fée » vient. Si on a sirène à la tête, on peut très bien avoir reine aussi. Et puis, il y a ce changement de rythme que tout le monde remarque et qui est, en effet, remarquable. Nerval change la poésie parce qu'il change un poème d'un vers à l'autre. On est dans un autre poème quand on est dans un nouveau vers. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Voyez, ça change constamment. Mais pourquoi écrire ainsi? D'abord, sans doute, parce que le poème est venu comme cela, hein, mais aussi parce que c'est par la poésie, par l'acte poétique, que Nerval lutte contre l'éclatement et peut-être aussi contre la folie du moi. D'où lutte au début et lire à la fin. L'affaire est grave. Nerval n'accomplit pas son salut dans le sonnet. Il s'encourage du fait qu'il s'est sauvé par le passé. À un certain moment du passé, il s'est sauvé. Il ne s'est pas suicidé. Et il s'est suicidé, dit-il, par la poésie. Dans Octavie, il dit, évidemment j'ai oublié exactement l'expression, j'ai une très bonne mémoire pour la musique, mais pas pour les mots, je ne cherche pas. Dans Octavie, il dit qu'il voulait se suicider, mais... je ne sais pas quel pouvoir ou quelque chose comme ça m'a empêché. Dans El Desdichado, il dit que c'est la poésie qui l'a empêché de se suicider. C'est en transformant les soupirs et les cris qui le sollicitaient en musique sur la lyre du premier des poètes. Orphée est là comme évidemment le poète par excellence, qui est aussi le musicien par excellence, le premier, celui qui fonde l'art de la poésie et l'art de la musique. Il est question d'un moi éclaté, et Il est question aussi d'un réel éclaté. Dans la mesure où le poème cherche l'être du moi, il cherche aussi l'être du réel. Et je ne m'intéresserai pas à l'occultisme de Nerval, faire revivre les filles du feu et les fils du feu, etc. Sauf pour dire, en passant, que Blake, que Nerval ne semble pas avoir connu du tout, est intéressant dans ce contexte. Il est curieux que les Nervaliens ne parlent jamais de Blake, enfin à ma connaissance, et qu'il est intéressant surtout dans le mariage du ciel et de l'enfer de 1790, où il est question précisément du feu créateur et du fils du feu. Je m'intéresse plutôt à l'immense hétérogénéité du monde comprimé dans un sonnet. Il y a l'Angleterre par Scott. Oui, il y a l'Angleterre. C'est un roman écossais, mais qui concerne l'Angleterre. Il y a l'Espagne par Eldes de Caro. Il y a l'Aquitaine. Il y a l'Allemagne, l'Italie, la Grèce. Il y a la reine de Saba. Une note de Nerval propose que la reine en question est la reine de Saba. Il y a une reine, une sirène, une sainte, une fée. Eurydice, qui est une dryade, entre parenthèses. Eurydice n'est pas dans le poème, enfin, elle y est quand même. Autrement dit, il y a toute une série de figures féminines mythiques. Il y a le roman, par le titre, la gravure, Mélancolia de Dürer, la musique et la poésie. Le poème crée une sorte de va-et-vient entre le réel et le rêve. Le réel est là, Posillipe. C'est une région de l'Italie, à Naples. C'est une montagne, à Naples. Il y a la mer tyrrhénienne. Il y a une treille, un pampre, une rose. Mais en même temps, il y a la sirène, etc. Alors, la question à se poser, évidemment, c'est Nerval enrichit-il notre image de l'être du monde par cette hétérogénéité de choses qu'il oblige à venir dans son poème, ou déréalise-t-il le monde? Ben, il me semble qu'il l'enrichit incommensurablement et que le poème raconte au fond une certaine histoire vraie du moi et du monde. L'histoire, c'est à peu près ceci. Un monde a été perdu, veuf. Un être humain rayonnant est déshérité. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et dans ce monde ravagé, on rêve le baiser de la reine, par exemple, la sirène. On cherche à regagner le monde, rends-moi le posilipe. On rencontre la mort. Et la poésie est là pour transformer le monde en elle-même. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé. Autrement dit, les étoiles sont peut-être mortes, mais elles deviennent musique. Sur le luth du ménestrel, il y a représenté les étoiles du ciel, comme à la fin, les soupirs et les cris deviennent la musique d'Orphée. La poésie est là pour transformer le monde en elle-même, mais on veut que le réel au-delà de la poésie soit là et on voudrait y avoir accès. D'où la transformation de Tristesse de Lamartine. Je vous ai donné le début et les vers 14-15. Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage où Naples réfléchit dans une mer d'azur, ses palais, ses coteaux, ses astres sans nuages, où l'oranger fleurit sous un ciel toujours pur. Là, sous les orangers, sous la vigne fleurie, dont le pampre flexible aux myrtes se marie. Alors, on sait que les deux derniers vers reviennent souvent dans Les filles du feu, non seulement dans El Desdichado, mais on passe audiblement d'un poème romantique, celui de Lamartine, un poème romantique, nostalgique, descriptif, peut-être même un tout petit peu délayé, c'est très beau, mais c'est un peu délayé, à un poème, celui de Nerval, dont on remarque surtout la densité de l'écriture. Si Nerval devait réécrire ses vers, il les aurait remplis de beaucoup d'autres choses. La densité de l'écriture. Et quand il dit « Rends-moi le Posilippe », il pense à deux choses. Il pense au fait qu'il est allé à Naples, il a escaladé le Posilippe, etc. Mais il pense aussi à ce passage de Lamartine, c'est bien clair. Lamartine dit presque la même chose. « Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage, ou Naples, etc. » Mais il transforme entièrement dans le sens qu'il enlève la nostalgie romantique et demande qu'on lui rend le monde au-delà de la poésie, au-delà peut-être aussi de l'hallucination, qu'on lui rende le monde après l'expérience de la mort, après le passage de la mort. C'est comme si le veuf, celui qui est veuf du réel, disait « Rends-moi le réel », ce qui est beaucoup plus intéressant que ce que dit Lamartine. Et ce poème sur l'être du moi et du monde est aussi donc un art poétique, une méditation sur l'être de la poésie. Et la vraie rencontre de Nerval avec la poésie n'est pas, me semble-t-il, dans l'ambition de faire revivre le paganisme ou de syncrétiser toutes les religions, etc., dont on parle nécessairement parce qu'il en parle lui-même. La vraie rencontre de Nerval avec la poésie se situe dans cette recherche de la modulation du réel. J'emploie le mot qu'il emploie, lui. Dans cette recherche de la modulation du réel, rencontrer le monde en le disant en poésie, sortir du monde dans un monde renouvelé. Le temps file à une vitesse. Je note en passant que l'ambition fondamentale telle que Nerval la comprenait fait partie de ces ambitions impossibles qui ont hanté beaucoup de poètes français au XIXe siècle. Le désir de l'impossible se retrouve chez Nerval, chez Mallarmé, le rêve du livre, chez Rimbaud, à un certain moment, le Rimbaud de l'alchimie du verbe, etc. Peut-être parce que, au XIXe siècle, beaucoup de poètes français veulent que la poésie devienne le nouveau salut, toutes les autres formes de salut ayant été abolies. Peut-être aussi à cause de 1789, ou du moins je vois un rapport entre le désir de refaire le monde entièrement, y compris le calendrier, dans la révolution de 1789, et le désir de révolutionner la poésie, de faire de la poésie un nouveau monde, dans Nerval, Mallarmé et Rimbaud. Je note aussi que Baudelaire échappe à cet envoûtement. Celui qui est peut-être le plus grand de ces grands poètes, n'avait pas d'ambition irréalisable. Et je pense dans ce contexte au Westland d'Eliot. Je l'ai mentionné il y a un moment, qui date de 1922. El Desdichado a été publié par Dumas à l'insu de Nerval en 1853 et par Nerval en 1854. Il y a donc plusieurs générations entre les deux textes. On sait que Eliot cite le prince d'Aquitaine à la tour abolie à la fin du Westland, je vous ai donné ce passage, peut-être simplement pour ajouter une autre image de la tour de Babel. Et il est déjà intéressant et tout à fait nervalien de noter que Eliot change le sens du vers de Nerval. La tour abolie dans Nerval n'a rien à voir, que je sache, avec la tour de Babel, détruite dans la Genèse. Mais dans le poème d'Eliot, il est clair que c'est la troisième ou la quatrième allusion à une terre déchue, à une tour abattue, démolie, qui signifie dans le poème Babel. Eliot ne semble pas s'être intéressé à Nerval. Il ne parle pas de lui, alors qu'il parle immensément dans ses livres de critiques littéraires, d'écrivains anglais, américains, étrangers, etc. Ça ne signifie pas qu'il ne s'intéressait pas à Nerval. Ça signifie simplement qu'il n'en parle pas. Les Nervaliens ne s'intéressent pas à un lien possible entre les deux poètes. Les spécialistes d'Eliot non plus. Ils notent que ce vers vient de Nerval. Mais plus on réfléchit aux deux poèmes, plus on voit de ressemblances. Et si même Eliot n'a rien appris chez Nerval, c'est tout à fait possible. Il aurait pu. Et Nerval paraît, par la comparaison, extrêmement moderne. Rapidement, parce que le temps file. Rapidement. Nerval rend un poème immense par la surabondance des matières dont il est fait. C'est précisément le cas, de façon célèbre, du génie du Westland. Nerval joue interminablement des rôles. Eliot aussi. Le jeu du Westland change continuellement de contenu. Nerval contrôle l'éparpillement du moi par, entre autres choses, des renvois très précis. Le premier vers, veuf, Orphée, à la fin. Eliot aussi. Je vous ai donné le début de l'épitaphe, de l'épigraphe et les derniers vers parce qu'ils contiennent chacun une allusion cachée à Apollon. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais enfin, Apollon est derrière la Sibylle de Cume, comme il est derrière Quando fiam uti Calydon. Le titre de Nerval suggère un présent de malheur. Ivanhoé lutte pour la noblesse saxonne, évincée par vous autres, et pour l'instant, il est desdichado. À la fin du roman, tout devient bien. Richard Coeur de Lion vint Jean Santerre, les Saxons et les Normands sont plus ou moins réconciliés, etc. Il y a un triomphe à venir. Le titre d'Eliot aussi, La Terre Gaste, parle de la Terre Gaste précisément, mais parle aussi du fait que le chevalier du Graal, en posant les questions qu'il faut, rendra fertile la terre infertile. Il y a une étrange coïncidence, qui est vraiment une coïncidence. El Desdichado a été écrit durant la deuxième crise de Nerval, dans une clinique. The Westland a été écrit dans deux cliniques, où Eliot est allé à cause d'une maladie, non pas exactement mentale, mais néanmoins une maladie psychologique. Et le poème le dit de façon très discrète. La lecture ultérieure d'un poème par un autre poète change-t-elle le poème? Je pense que oui. Je pense que El Desdichado, un poème qui compose une belle cohérence avec des fragments, et qui conduit vers Eliot comme vers Pound, devient un poème moderniste. Nerval devient plus moderne, et peut-être qu'il est plus moderne que les autres poètes du XIXe siècle. C'est un poète moderniste qui plonge déjà dans la poésie des années 10 du XXe siècle. Et il est moderne par sa façon d'enrichir la poésie. Parfois, de façon française, par les accouplements étranges de mots. Par exemple, la tour abolie. Qui d'autre aurait écrit « abolie » C'est tout à fait nervalien, mais quand on y pense, c'est aussi très français, parce qu'une tour démolie est une tour bien en chair, pour ainsi dire. Alors qu'une tour disparue perd déjà un peu de sa réalité concrète, mais une tour abolie perd entièrement sa réalité. Ce n'est plus une tour construite avec des pierres, etc. Une tour commence à ressembler un peu, par exemple, à une coutume qu'on abolit. Une tour abolie est précisément la mise en œuvre de cette partie du génie de la langue française et de la poésie française de voguer entre le réel le plus concret et, disons, le cérébral. Il y a aussi des vers infinis. Je me rappelle en train de scander des vers de Nerval quand j'étais étudiant à Cambridge. Je ne comprenais pas, mais j'étais ébloui, et les vers restaient dans la mémoire parce qu'ils sont faits pour rester. On peut être émerveillé sans rien comprendre. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, par exemple. C'est un vers infini. J'aurais bien aimé faire un cours sur ce vers-là. Ce serait tout à fait possible. C'est un vers sur le moi, où l'être du moi devient infini. J'ai parlé de l'éparpillement du moi, mais Nerval s'intéresse aussi à l'infini du moi. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Formidable. Surtout que rêver signifie en partie, j'ai écrit des poèmes. Ou le vers célèbre, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, sans savoir qu'une partie de la famille de Nerval venait de l'Aquitaine, que l'Aquitaine c'est un des berceaux des troubadours, etc., sans penser que le prince d'Aquitaine peut être Richard Cœur de Lion, et qu'il y a même un rapport entre le titre El Desdichado et Richard Cœur de Lion, parce que Ivanhoé est le champion de Richard. Sans connaître tout cela, on voit une sorte d'infini qui s'ouvre. Et je terminerai avec une petite anecdote. Eliot, quand il faisait une lecture de poèmes, je crois, aux États-Unis, a permis aux gens de poser des questions, et quelqu'un lui a dit, « Mr. Eliot, what do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? Lady, three white leopards sat under the juniper tree. » C'est un vers de Mercredi des Cendres. What do you mean? Et Eliot a répondu, I mean, lady, three white leopards sat under the juniper tree. Et je vois très bien Nerval devant nous autres gens qui essaient de comprendre El Desdichado, si on lui disait, mais qu'est-ce que vous voulez dire, le prince d'Aquitaine à la tour abolie? Dire, je veux dire, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et en un sens, c'est une définition de la poésie moderne. Cette définition qui a percé petit à petit dans la critique. Le poème, c'est celui qui dit exactement ce qu'il dit, rien de moins et rien d'autre. Bon, merci. La semaine prochaine. Merci. La semaine prochaine, je parlerai des spleens de Baudelaire, et en particulier de celui qui commence « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ».